Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu et à cœur ouvert avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Écouter Arthur Aubeuf, le cofondateur de Team for the Planet, c'est prendre un grand bol d'air frais et de justesse. Arthur a tout fait en accéléré. Il n'avait pas fini ses études qu'il montait des communautés digitales rassemblant des dizaines de millions de personnes. À peine 20 ans passés, il gérait des réseaux sociaux en hypercroissance. Et à 25 ans, il faisait sa crise de la cinquantaine. Il éprouvait un grand vide de sens, particulièrement violent, et il décidait de mettre son temps et ses compétences au service de ce qui le rendait véritablement heureux et qui avait besoin de sa protection, à savoir la nature. Alors pas de grand cri ni de jet de soupe chez cet écolo convaincu qui a grandi dans le Jura. Juste un réalisme puissant, niché dans un sourire désarmant. Arthur a la conviction que tout est là pour réaliser la transition climatique devant nous. Il faut, d'une part, mettre les communautés digitales au service de la planète. Et d'autre part, identifier, financer, accompagner les meilleures innovations qui sont capables de réduire nos émissions carbone. Et elles sont déjà là. Et le tout avec un regard positif sur la transition, plutôt que le catastrophisme ambiant qui nous épuise et qui crée de l'apathie. Alors ça résonne pour vous ? J'allais dire, on en a rêvé, Arthur l'a fait. Avec 4 autres cofondateurs, ils ont monté Team for the Planet, un collectif qui mobilise une communauté mondiale. Communauté qui lutte contre le réchauffement climatique. Et ce n'est pas une petite communauté, ils sont déjà plus de 120 000 personnes, excusez du peu. Ensemble, ils ont levé 27 millions d'euros, ils ont lancé 10 entreprises pour, comme ils aiment à le dire, tabasser les gaz à effet de serre. Leur objectif, lever 1 milliard et financer 100 entreprises pour la transition. Cet échange va vous interpeller. Il nous questionne sur le sens que nous voulons donner à nos journées, sur la façon de mettre nos expertises au service du réchauffement climatique et sur, finalement, le chemin vers le vrai bonheur. Je vous laisse avec Arthur pour un épisode que vous n'êtes pas prêt d'oublier, plein de sagesse. Très bonne écoute à vous. Salut Arthur.
Salut, merci de m'inviter.
Arthur, t'as pas 30 ans et t'as déjà eu 1000 vies.
Je suis désolé, je viens d'avoir 30 ans, purée, c'est dur.
Oh la vache, mais je suis même sans gâteau d'anniversaire, sans bougie, sans
ouais,
rien.
Ouais, désolé, on peut pas souffler
c'était
le gâteau.
Quand
c'était le 4 décembre, donc tu vois ça.
Ouais, bon, ça y est, c'est passé. Ouais. Alors, donc t'as passé tes trentenaires, ça va, tu le vis bien.
Ah, oh, c'était un peu dur quand même au début. Hein.
Ah ouais.
Bah quand même.
Oh la vache, alors là tu me files un coup de vieux. Attends. Je vais pas pouvoir le diffuser cet épisode si tu m'expliques que 30 ans c'est dur.
Ah, c'est un petit cap quoi.
Ouais, vraiment, tu l'as vécu comme ça ?
Ouais, c'est intéressant. Moi, je suis content d'avoir 30 ans parce que, tu vois, je suis dans une phase de ma vie qui m'intéresse et où je trouve que ça me va d'avoir 30 ans. Mais par contre, c'est quand même un petit moment de la vie où on se pose 2-3 questions, tu vois, on fait un petit point, quoi, normal, comme toute décennie.
Ouais, pourtant, t'en as fait des choses à 30 ans. Tu t'es pas reposé entre 17 et 30.
Non, pas trop, mais bon.
Alors, moi, ce que j'ai vu, et tu vas m'arrêter, puis tu me coupes quand tu veux, mais ce que j'ai vu, c'est que tu avais bossé pendant tout un moment, comme un damné, sur l'influence dans les réseaux. On va y revenir, tu as lancé plein de réseaux sociaux, tu avais à peine 17 ans, tu n'avais pas particulièrement de formation dessus, mais tu as été au culot, et ça a marché de feu de Dieu, jusqu'au moment où, en fait, tu as été près d'une crise de sens, et on y reviendra. Et tu as créé avec 4 autres entrepreneurs, vous étiez 5, Team for the Planet, anciennement connu par ceux qui nous écoutent peut-être comme Time for the Planet, collectif dans tous les cas qui cherche à mobiliser une communauté mondiale pour lutter contre le changement climatique, et on va voir comment. Alors j'aimerais qu'on voit ensemble comment tu en es arrivé là et qu'on commence par le début, parce que dans Demain n'attend pas, j'aime bien faire un peu de spéléologie. Je crois que tu as grandi dans le Jura. Quel souvenir tu as de cette enfance et comment elle t'a fondée ?
Enfance extrêmement heureuse au milieu des montagnes du Jura en effet, donc c'est dans l'Ain, dans le Haut-Bugey, mais c'est les parties les plus hautes du massif du Jura, c'est pour ça que c'est un peu technique. Et en gros, j'ai vécu dans un village de 200 habitants au milieu de la forêt, donc moi ma vie c'était aller dans la forêt, aller à l'école, rentrer de l'école, aller dans la forêt et faire du sport beaucoup. Je viens d'une famille hyper sportive avec deux parents enseignants. Donc j'ai toujours été amené à être curieux et à regarder autour de moi. Et je voulais être paysagiste, moi, à la base. C'était ça mon unique destin, en tout cas dans ma tête. Je m'étais vraiment dit que j'allais être paysagiste.
Tu y reviendras peut-être.
Ben, je suis assez certain que j'y reviendrai, d'une manière ou d'une autre. Et mon trip, c'était de creuser des mares. Tu vois, j'adore les mares. Je regardais les libellules pendant des heures. J'étais assis tout seul au bord de ma mare. Je faisais des petites cascades. Je n'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur. C'était pas du tout mon souhait. Je ne savais même pas ce que c'était d'être entrepreneur, en fait. J'ai pas du tout d'entrepreneur dans ma famille et tu vois mes grands-parents ils étaient ouvriers des deux côtés donc en fait je sais pas trop comment je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat mais c'était pas le plan de départ.
Vu comme ça, un village de 200 habitants dans le Jura avec des parents profs et des grands-parents ouvriers, t'étais pas né pour te retrouver patron d'entreprise des réseaux sociaux.
Non, c'était pas le plan initial.
Il s'est passé un truc sur ta trajectoire. Oui. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que t'avais une connexion de dingue avec la nature.
Mais je l'ai toujours, hein. C'est vraiment ma raison d'être. Chaque fois que j'y réfléchis, en fait, moi, je vis pour la beauté de la nature et je me lève le matin pour aider l'humanité à respecter la nature, à se rendre compte qu'elle a besoin de cette nature et à changer le regard qu'on a sur la nature. C'est ça le sens de ma vie. Et je le sais, c'est écrit dans mon téléphone, je regarde tous les matins.
Alors, comment t'en es venu à créer une première communauté Nuit sans folie, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'était quand même la communauté où on mettait les pires anecdotes sexuelles de manière anonyme et qui a fait, en cumul avec tes autres communautés, une douzaine de millions d'abonnés. Donc, ça n'a pas été petit. Hein.
Ouais, ouais,
comment t'es passé de l'amoureux de la libellule à Nuit sans folie? Ça paraît un peu sans transition.
Ouais, bah, il n'y avait pas trop de transition. En fait, je suis allé en fac de sport parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et en fac de sport, j'avais 6 mois de vacances par an. Donc pendant mes 6 mois de vacances, je faisais des trucs, je lançais des marques de vêtements, j'essayais, je sais pas, j'aimais bien bidouiller, tester des trucs. Et pour ça, j'utilisais les réseaux sociaux. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'aimais bien créer des communautés sur Internet, sur Facebook notamment, qui était le réseau social à l'époque, qui était tendance. Tu vois, on est genre en 2011, un truc comme ça à l'époque. Et j'avais récupéré un truc qui s'appelait Spotted, c'était des pages qui permettaient de passer un message anonyme. Donc tu suivais cette page, t'envoyais un message anonyme destiné à quelqu'un de ton campus, c'était pour les étudiants. Par exemple, toi jolie brune à l'abri bus, t'as illuminé ma journée avec ton sourire, voilà merci. Et donc ça passait des petits trucs comme ça et la page republiait pour que ça soit anonyme. Et donc moi je gérais ça, qui avait quelques milliers d'abonnés. Et le truc perdait un peu de vitesse et je m'étais dit quand même, on m'envoie beaucoup des anecdotes plutôt un peu voilà tournées un peu sexe machin. Est-ce qu'il y a pas moyen de dédramatiser un peu les aléas de l'amour et du sexe avec un concept similaire? C'est comme ça qu'est née Nuit sans folie, mais vraiment à l'arrache totale et qui a en effet été un gros carton au départ et qui m'a vraiment lancé dans ce monde des communautés parce que on faisait des millions et des millions et des millions de vues avec ça tous les mois. Et puis ensuite, on a agrégé d'autres communautés, on a racheté des communautés, on en a relancé jusqu'à avoir en effet 12 millions d'abonnés sur Facebook notamment.
À quel moment tu t'es senti loin du petit garçon qui était devant sa mare et ses libellules?
Ça a pris du temps parce qu'après, j'ai transformé tout ça en médias avec des sites internet, des applications smartphone, hein, commencé à monétiser, j'ai vendu une première boîte, puis une deuxième, j'ai continué d'en faire. J'étais un peu happé dans ce monde-là, si tu veux. Et en fait, moi, j'ai connu deux types de réussite. D'abord, la réussite non marketing, non commerciale que j'ai connue dans la nature où en fait tout ce qui compte c'est de s'émerveiller, c'est d'être heureux au quotidien avec des choses simples et d'être avec des gens qu'on aime. Ce qui était ma première définition de la réussite dans un monde où il n'y avait pas de pub et où on n'avait pas besoin d'être riche ou milliardaire ou célèbre. Et ensuite j'ai été happé par la Startup Nation, on va dire, et une autre définition de la réussite beaucoup plus commerciale qu'on nous met sans cesse devant le nez sur des écrans, sur Instagram, où grosso modo faut faire des startups, faut être connu, faut gagner de l'argent. Et donc j'ai expérimenté un peu à fond cette direction-là parce que j'avais la possibilité et ça me tendait les bras. Donc je me suis dit allons voir ce que ça donne. Mais après quelques années et vraiment être allé assez haut dans ce monde-là, parce qu'à la fin je gérais l'Europe pour un réseau social américain où on avait levé 300 millions d'euros et on était 400 employés. Enfin c'était vraiment et moi j'étais dans on était trois au début quand on a commencé. Donc ça a été assez fulgurant. Ça s'est fait en 2 ans. Ça s'appelle Thriller. C'était un concurrent de TikTok, mais bon, TikTok mettait 300 millions par mois en marketing, donc autant dire que ça commence à être compliqué. Mais à ce niveau-là, qui était un peu le niveau max, parce que tu vois, on était tout le temps avec des très gros influenceurs, on allait à Los Angeles, machin et tout. Bah, j'étais toujours pas aussi heureux que ce que j'avais vécu dans ma jeunesse, dans mon enfance. Donc je me suis demandé si c'était lié à l'enfance versus l'âge adulte, ou si c'est simplement que je m'étais fait endoctriner par un modèle de réussite qui finalement n'est pas sain, n'est pas bon et ne touche pas à ce qui vraiment importe aux humains. Donc à ce moment-là, j'ai eu envie d'arrêter d'être dans cette truc-là et de me dire, moi, je veux mettre mon temps et mon énergie et mes compétences entrepreneuriales au service de quelque chose que je trouve important, et la nature. Et ça se fera sûrement de plein de façons. Tu vois, là, je le fais d'une première façon avec Team for the Planet. Demain, je le ferai d'une autre façon. Et j'ai, tu vois, tant que ça tourne autour de préserver la nature, je sais que je me sentirai mieux.
Oh, tu étais plus jeune aussi. Hein. Je pense qu'il y a des moments où il faut aller chercher, essayer,
ouais,
avant de comprendre quelle est ta mission à toi.
Exactement. C'est dur, hein, de trouver son ADN. Mais moi, tu vois, même pour l'entrepreneuriat, maintenant, de manière générale, je me rends compte qu'en fait, tu peux pas construire un building. Bon, c'est pas vraiment un argument écolo dit comme ça, mais tu peux pas construire un building sur un marécage. Il faut que tu trouves ton terrain constructible. Il faut que tu trouves un endroit où vraiment tu es aligné à l'échelle de ton ADN, quoi. Où vraiment, ce que tu fais, c'est ce que tu veux faire, et peu importe si t'es tout seul, peu importe si personne t'aide, peu importe si t'as pas d'argent, c'est ça que tu veux le faire.
Cette conscience du fait que ta première réussite, qui était réussite dans la nature, comme tu l'as dit, j'aime bien ton opposition réussite de la Startup Nation et réussite de la nature, cette conscience-là, tu l'as eue parce que tu t'es senti, excuse-moi de l'expression, mais un peu burné. C'est-à-dire, tu as été au bout. Ce qu'on imagine, ces hypercroissances que tu décris, en particulier dans le post sur Thriller, où tu décris que vous êtes passé de 4 à 400 personnes en 2 ans ou à peine. Et une course aux résultats énorme et des voyages à l'autre bout du monde. Et ça, on imagine combien c'est aussi éprouvant.
Ouais.
Est-ce que c'est aussi une fatigue, tu vois, qui t'a emmené à te rendre compte que... est-ce qu'il a fallu que tu touches une forme...
De fond.
Ouais, une forme d'épuisement pour pouvoir t'en rendre compte.
Alors, paradoxalement, j'ai fait un burn-out, mais dans Team for the Planet au début, et pas avant. Avant, je tenais bien, mais c'est surtout qu'il y avait un vide de sens qui était vraiment violent. Et en fait, quand je rentrais chez moi dans le Jura faire du ski de fond le week-end, j'ai vraiment cette anecdote qui m'avait marqué parce qu'on était allé à l'anniversaire privé de Snoop Dogg, tu vois, enfin, ouais, des trucs, c'était quand même légendaire. On était genre 50 dans l'anniversaire de Snoop Dogg. J'ai fait ça, je suis rentré, et le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé faire du ski de fond tout seul sur les hauts plateaux du Jura. Et je me rappelle très bien en skiant me dire, mais en fait, je suis tellement mieux là qu'à l'anniversaire, ouais, de Snoop Dogg, quoi.
Je comprends.
Mais genre, mais aucun sujet, tu vois. Et ça me questionnait beaucoup. Je me disais, mais pourquoi je fais ça, en fait? Est-ce que je le fais pour moi, ou est-ce que je le fais pour ce que ça représente aux yeux du monde?
Bien
et
sûr.
En fait, je le faisais pas du tout pour moi. Et donc, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire, moi? De quoi je serais vraiment fier à la fin? Et qu'est-ce qui vraiment ne me donne pas le sentiment de gâcher mon temps? Parce que vraiment, j'avais l'impression d'utiliser mon crédit vie pour des trucs dont j'avais rien à foutre, en fait. Et je me suis rendu compte que cette vie, elle va passer vite, et que justement le crédit vie, il faut pas le gaspiller bêtement. Et c'est là que j'ai eu vraiment envie de me dire.
T'as été d'une sagesse à ton âge.
Non, moi je pense c'est. Bah...
Parce que t'avais à peine 25 ans.
Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions, franchement, mais c'est juste qu'on les met sous le tapis. Je pense que là où j'ai un peu peut-être fait une diff, c'est que moi je me suis vraiment foutu en face et j'ai dit, mec, tu peux pas perdre ce temps, quoi.
La question que tu touches, elle est hyper importante, et moi c'est un truc qui m'obsède un peu dans Demain n'attends pas. C'est à quoi est-ce que mon temps et mes compétences servent.
Mais c'est l'action la plus importante d'une vie.
Ouais.
Je le dis souvent quand on me demande, mais c'est quoi le geste le plus écolo? Mais en fait, c'est pas de prendre le vélo pour aller au taf, parce que si tu vas au taf et que ton taf il fait l'inverse de ce que tu défends en prenant le vélo, comme tu travailles 100 000 heures dans une vie, en fait, non seulement tu annules l'impact de ton geste, mais en plus, bah, t'es en dissonance complète. Et rien n'est plus important que de savoir à quoi on consacre sa vie professionnellement, je pense.
À quel moment tu as eu ta claque climatique? À quel moment tu as compris ce qui était en train de se passer?
En fait, moi, j'ai pas trop eu la claque climatique, dans le sens où... En fait, moi, comme j'ai vécu toute ma vie dans la nature, je l'ai vu se transformer quand même beaucoup, tu vois, au fur et à mesure. Je me rappelle qu'il fallait 10 minutes pour aller faire du ski de fond depuis chez mes parents quand j'étais petit, puis après, il en a fallu 20, 30. Aujourd'hui, je le fais plus, mais il faut 40 minutes quoi, pour aller skier depuis chez eux. Donc, j'ai vu les stations dans lesquelles j'ai appris le ski fermer. Bah, t'es obligé de te demander ce qui se passe, tu vois. Tu peux pas juste dire, bon, bah, ça ferme, ok. T'es obligé de te renseigner. Donc, assez vite, en fait, vers 12-13 ans, j'avais conscience qu'il y avait un dérèglement climatique. C'était clair. J'avais pas du tout, je me disais pas, tout va bien ou quoi. Mais par contre, j'avais pas réalisé l'ampleur du sujet. Parce que je pense que beaucoup de gens savent qu'il y a un dérèglement climatique, mais n'ont pas compris le problème de fond. Et après, il m'a fallu vraiment aller passer du temps sur le sujet, je dirais vers 2018, à regarder toutes les vidéos de tous les Janko et autres, tu vois, et aller vraiment dans le détail pour pour vraiment avoir une conscience aiguë de ok, en fait, c'est quand même le sujet numéro un. Mais du coup, moi, j'avais quand même cette connexion profonde. Et quand j'ai en plus compris avec les données, en étant un peu... Moi, je suis très curieux, donc j'aime bien. Je suis assez boulimique quand je découvre un sujet. J'ai envie de vraiment aller au bout. Bah, j'étais passionné par ça. Et en fait, je me rappelle très bien que je me suis dit, c'est ça ma vie. C'est fini, je ne ferai plus jamais rien d'autre que des trucs au service de la nature.
Qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire ? Tu savais que tu allais travailler en lien avec la nature et avec l'environnement. Mais comment t'as rebondi là-dessus ?
Ouais, c'était une période chelou de ma vie. Et je veux être assez honnête avec les gens, c'était dur. Très dur parce que j'étais perdu quand même. Je savais ce que je voulais, mais j'avais aucune idée de comment je matérialisais ça. Non, c'est méga dur. J'avais jamais eu ça, en fait. Toute ma vie, j'avais suivi à peu près un flow. J'étais à peu près dans, tu vois, j'étais à peu près serein sur là où j'allais. Mais là, en fait, bah, y a tout à faire, en fait, à ce moment-là de ma vie et à ce moment-là même de, tu vois, on est en 2019, début 2019. Il n'y a même pas eu le Covid, il n'y a pas encore plein de trucs, tu vois, qui sont arrivés. Donc, c'est pas vraiment le même monde qu'aujourd'hui, je pense. Mais je me rappelle très bien de cette espèce de sensation de flou énorme. C'est dur, j'ai du mal à la décrire, mais putain, je savais pas où j'allais, quoi. Et je me disais, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas où je sais pas ce que je vais faire. Et tu vois, je veux pas mentir aux auditeurs parce qu'après, j'ai été clair sur ce que je voulais faire, mais ça m'a pris du temps et je me rappelle très bien de cette phase qui est franchement difficile psychologiquement. Ça prend des mois. J'ai passé beaucoup de temps, par exemple, dans les bureaux de Germinal, qui à l'époque était une startup qui cartonnait, enfin bref, qui était faite par un pote. Et je me disais, bon, moi, j'aime créer des communautés, j'aime trouver des innovations parce qu'en fait, à la base, à la fin, dans mes startups, on avait beaucoup une mécanique où on s'amusait à lancer des projets et on essayait de trouver tout de suite s'ils étaient viables ou pas, tu vois, économiquement. Et en fait, on pouvait le faire avec les outils digitaux parce qu'on pouvait créer fictivement des produits sur Internet, essayer de les vendre. Et si ça fonctionnait, alors on faisait tout le process pour créer pour de vrai le produit, tu vois. Et en fait, on était capable de tester des trucs sans même les faire créer, les faire exister. Et donc, de voir s'il y avait une réalité économique. Et j'aimais bien cette mécanique de tester vite, de savoir et d'avoir tout de suite des retours sur... C'était un peu la nouvelle étude de marché version grosse hacking, quoi. Et en fait, je me disais, bon... Est-ce que je peux pas faire ça pour des trucs qui sont vraiment utiles, quoi ? Plutôt que de le faire pour des saloperies qui servent à rien, à part à faire danser des gamins et à les rendre dégénérés sur une appli, est-ce qu'il n'y a pas des trucs vraiment utiles qui peuvent bénéficier de toute cette puissance ? Et je me rappelle que c'est quand j'ai essayé de lire un rapport du GIEC, je sais plus il y a combien de temps, le tout premier, quoi, que je me suis dit, mais putain, mais ces mecs, ils ont tellement besoin d'une agence marketing, quoi, c'est un enfer.
Tu t'es collé les vrais rapports ?
Ouais, non, pas en entier, c'est impossible, ouais. C'est 3000 pages, personne ne peut lire
déjà
ça.
Déjà, les synthèses, il faut s'accrocher.
Et en fait, moi, je me suis dit, non, je suis convaincu que, en fait, bah, on est dans un monde qui a une certaine réalité, il y a des outils qui sont très puissants, si on les utilise pour vendre du pétrole, si je caricature, mais pas pour expliquer qu'il y a un sujet climat et, ou en tout cas essayer de s'en sortir, bah, on passe à côté du truc. Et donc, à ce moment-là, moi j'avais la conviction que utiliser la puissance des réseaux sociaux, des communautés, de l'entrepreneuriat, de l'argent, ça devait servir des projets utiles. Et donc, j'avais commencé à bricoler un truc qui s'appelait Optimiste, c'était le nom, parce que je voulais un regard positif sur la transition, justement, plutôt que toujours le catastrophisme qui nous épuise et qui ne nous met pas en action, qui provoque beaucoup d'apathie. Et en commençant à créer ça, en fait, j'ai vu le mec qui avait les bureaux au-dessus des miens à Lyon à l'époque avec une de mes startups qui pitchait un truc un peu pareil dans son jardin avec un écouteur qui pendouillait. Et donc Mehdi, qui est mon associé aujourd'hui, que j'ai appelé et puis on s'est dit, mais en fait, on essayait de faire un peu le même truc. Lui aussi... Ouais, lui en fait, il faisait du référencement sur Google, il aidait des types à être premiers sur Google. Mais bien sûr, c'était que les pires entreprises du monde. Et pareil, il s'est dit, mais pourquoi je fais ça en fait ? Et donc pareil, un peu le même type de fonctionnement, il s'est dit, mais on a des outils géniaux, on les utilise pour les pires trucs. Et donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble ? Et c'est là que Team for the Planet est né, parce que lui, il avait déjà beaucoup réfléchi à la question depuis 10 ans, tu vois, avec Nicolas, avec Laurent, avec Denis, qui sont aussi nos associés aujourd'hui. Et donc c'est là où ça s'est un peu cristallisé et on a dit, ok, on le fait, quoi. Tous gagnaient très très bien leur vie, tous avaient des gros avantages et là, on a tous sauté, tu vois, d'une falaise. Et donc, quand t'es dans cette situation-là, et de toute façon, on est complètement désintéressé. Nous, on pourra jamais gagner d'argent avec Team for the Planet, à part nos salaires qui sont capés et votés en Assemblée Générale par 120 000 personnes. Donc,
c'est
en
important
fait,
de se le redire, hein. Vous avez été longtemps, en tout cas, non rémunéré.
Ouais, 2 ans et demi, ouais. Bon, modèle, après, comme tout lancement des
boîtes. Je sais que c'est pas une association, mais modèle type associatif.
Ouais.
Et aujourd'hui, vos salaires sont capés.
Oui. Public et voté en AG. Ouais. Donc, dès qu'on s'augmente, c'est voté. Et en fait, tout ça pour dire que le fait d'être désintéressé, bah, c'est pareil. L'ego, il a moins de raisons d'être là parce qu'en fait, on est vraiment au service de la mission. Et donc, on ne peut pas se faire dépasser par nos intérêts personnels. Et je trouve que c'est très sain et très important. Sinon, c'est difficile.
Vu de l'extérieur et sans connaître tes cofondateurs, moi, je dirais que vous avez eu aussi un accord merveilleux parce que dans le monde associatif, où tu pourrais dire la même chose, les gens sont peu ou voire pas payés, eh ben, tu ne peux pas dire que l'ego n'existe pas. Au contraire, parfois, il prend le pas. À défaut de rémunération, de titre, l'ego devient très, très important et tu as des querelles de chapelle énormes. Ouais. Donc, vous avez eu une merveilleuse entente. Je pense que tant mieux pour vous.
Je pense que c'est que des gens, mes associés, qui sont déjà brillants, qui sont géniaux, profondément gentils. Vraiment, c'est des gens gentils, sincèrement, au fond d'eux. Et je pense que personne n'est capable de faire de mal dans cette boîte. Et donc... C'est vrai que c'est rare de trouver des gens comme ça, mais en même temps, c'est pour lancer un projet comme Team for the Planet, il n'y a pas grand monde. Hein. Les gens, ils veulent pas ce genre de folie, donc je pense que c'est quand même normal qu'on soit retrouvé entre gens comme ça, mais c'est une force énorme d'avoir des gens aussi bienveillants, honnêtement.
Vous aviez comme conviction commune que l'entrepreneuriat pouvait être une force, que les communautés pouvaient être une force, et que ces forces pouvaient être mises au service de la transition écologique et... Au sein de la transition écologique, vous avez choisi la captation carbone. Enfin, la lutte contre les émissions de CO2, ouais. Plutôt que la captation, excuse-moi. La lutte contre le CO2. Parce que tu vois, la transition écologique, c'est ça, c'est plein d'autres choses. C'est la préservation de la biodiversité, c'est le plastique, les pollutions, enfin, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a tellement qu'à un moment, il faut choisir ses combats. Votre combat, c'est le CO2.
En fait, si on a choisi le CO2, c'est simplement parce que quand on raisonne à la base... Donc, eux, par exemple, ils voulaient faire un truc pour les droits humains, tu vois, c'était ça leur... Mais en fait, à chaque fois, l'emballement climatique embarque tout le reste, dans le sens où si le climat dégénère, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive, au-delà de plus de 2 degrés de réchauffement, en fait, il y a des phénomènes géologiques majeurs qui se mettent en place, comme par exemple la fonte du permafrost, qui va libérer des milliards de tonnes de méthane dans l'atmosphère. Ce méthane, il est 30 fois plus réchauffant que le CO2, et donc plus ça libère de méthane, plus il fait chaud, et plus ça fait fondre le permafrost, etc. etc. Et donc il y a des dizaines de boucles comme ça qui s'enclenchent à partir de plus de 2 degrés, et qui crée une dérive climatique incontrôlable. En fait, à partir du moment où cette dérive climatique part, on ne peut plus rattraper la dérive climatique. Et notre raisonnement, ça a été de nous dire, bah, en fait, si on arrive à créer des droits plus, des meilleurs droits entre les humains, si on arrive à préserver des espèces, mais que ça part, en fait, ça va annihiler la plupart de nos efforts. Même si c'est super qu'il y ait plein de combats pour tout ça, parce que c'est extrêmement important et il faut tout faire en fait en même temps, c'est ça la complexité. Mais nous, notre raisonnement, c'était l'urgence absolue, c'est ça. Parce qu'une espèce, on le voit par exemple avec les castors, tu peux faire descendre l'espèce à 1%, c'était le cas, 1% de la population en Europe, et là c'est remonté quasiment à 100%. Et tu vois, parce qu'il y a eu des mesures de protection. C'est possible, la biodiversité a une capacité de rebond qui est génialissime. Alors une fois que c'est 0%, malheureusement, ça remonte pas. Ouais. Mais par contre...
Quand les gaz sont stockés, ils sont stockés.
Voilà, le problème, c'est que le CO2, c'est 10 000 ans. Ouais. Il est dans l'atmosphère, t'es parti pour 10 000 ans. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, nous, on s'est quand même dit, bah, ce sujet-là, certes, il y en a plein d'autres, mais si on ne l'adresse pas ou mal, malheureusement, il va bousculer tout le reste, quoi.
Et au cœur de votre conviction, il y avait cette idée que, j'y reviens, que l'entrepreneuriat était une force vitale. Je pense que c'est intéressant qu'on s'y arrête un peu, parce que, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur... sobriété versus innovation, ou sobriété et innovation, tu vois, est-ce qu'on peut concilier les deux? Donc ce parti pris de mettre l'entrepreneuriat au cœur de la transition, c'est un parti pris qui est fort, ouais. Et sur lequel j'imagine que vous avez de temps en temps été chahuté. Comment est-ce que vous avez convergé? Quelle est ton opinion sur ces débats? Peut-être qu'ils sont très franco-français aussi, ces débats d'ailleurs.
Alors, ils sont très franco-français, mais ils sont très bien. Je pense que les Français réfléchissent mieux que la plupart des habitants de ce monde sur le sujet, et c'est une très bonne chose, qu'on ait vachement avancé sur plein de trucs, et on est beaucoup moins justement dans le technosolutionnisme et des trucs superficiels. En fait, nous, notre conviction, c'est que l'entrepreneuriat, c'est juste l'outil de collaboration le plus avancé qui est sur Terre. Donc, c'est une façon de mettre des humains ensemble, de les faire collaborer pour faire naître des projets et des projets de société à grande échelle. Donc si on se passe de ça, ça va être compliqué. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon de construire ensemble un meilleur demain. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le verre est dans le fruit? Le verre, c'est comment est-ce qu'on a paramétré nos modèles entrepreneuriaux? Est-ce qu'on les a paramétrés par rapport à des objectifs qui sont devenus des normes alors que ce n'était pas censé l'être? Typiquement, aujourd'hui, tu vois, il y a un truc qui nous pose problème actuellement, qui s'appelle la Convention de Bruxelles. Quand des investisseurs ou des fonds veulent investir dans une entreprise... Si l'entreprise ne peut pas proposer de rendement financier, peu importe ce qu'elle propose, hein, elle peut proposer de l'impact, elle peut faire des trucs géniaux, s'il n'y a pas de rendement financier, ils n'ont pas le droit légalement d'investir, sinon ils vont en prison, ils peuvent être attaqués. On a bloqué les modèles entrepreneuriaux dans une direction qui, je pense, ne nous permet pas de voir l'entrepreneuriat comme quelque chose de positif.
Ça faisait 50 ans qu'on pensait que la mission de l'entreprise était exclusivement de faire des profits pour ses actionnaires.
Mais c'est un délire, ça n'a jamais été le cas. En fait, avant, l'entreprise, c'était des gens qui se mettaient ensemble parce qu'ils avaient envie de répondre à un problème de société. Tu avais des gens qui mettaient du temps, ça s'appelait les salariés, c'est toujours le cas. Et tu avais des gens qui mettaient de l'argent, et c'était les actionnaires. Et cet argent, ils l'investissaient pour la cause, pour le problème qui contribuait à résoudre. Et en fait, ils achetaient du temps par procuration qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Mais c'est ça, normalement, un actionnaire. Et c'est comme ça qu'on fait une boîte. C'est à quoi va servir ma boîte ? Sinon, si on monte une boîte pour dire on va transformer 1 euro en 2 euros, bah, on a perdu. On est un écureuil qui fait une montagne de glands alors qu'il est entouré par les flammes. Et en fait, je pense que notre sujet aujourd'hui, cruellement, c'est de non pas de faire des amalgames en permanence en disant l'entrepreneuriat égale le diable, mais de dire comment l'entrepreneuriat a dérivé à ce point-là et comment est-ce que l'entrepreneuriat devrait être pour que ça puisse être un outil utile. Et pour moi, l'entrepreneuriat est indispensable si on veut réussir cette transition et aller à la vitesse à laquelle il faut aller aujourd'hui. Et on ne pourra pas s'en passer. Par contre, il faut absolument poser la question du pourquoi. Et la question fondamentale du pourquoi, on ne la pose plus aujourd'hui. Ça devrait être le contrat de confiance. Ça devrait être les actionnaires, vous investissez, mais vous investissez, et c'est notre cas, pour du dividende climat. Vous investissez pas pour des retours financiers.
On pourrait remplacer le mot entrepreneuriat par entreprise ou capitalisme, d'ailleurs, parce que ce qui est vrai pour tes startups l'est également pour les entreprises plus grandes. Et ça me renvoie à une discussion que j'avais il n'y a pas très longtemps avec Fabrice Bonifay, qui s'exprime beaucoup sur ce sujet-là, parce qu'il nous rappelle que tout commence par la redéfinition de la raison d'être de l'entreprise. À quoi je sers ?
Mais c'est fou, hein, on dirait qu'on réinvente le feu, quoi, tu vois.
On parlait tout à l'heure de la même chose au niveau individuel, à quoi je participe. La même chose au niveau macro, au niveau de l'entreprise, c'est à quoi mon entreprise, qu'elle soit start-up ou multinationale, à quoi elle sert.
Mais évidemment, enfin, je veux dire, c'est une souffrance totale de travailler pour transformer 1 euro en 2 euros. À quoi ça sert de faire ça, quoi ? Et en plus, on tombe dans un truc qui est malsain en termes de santé mentale, de porter ça, de se dire mon seul but sur cette terre, c'est de m'enrichir. Enfin, je pense que c'est mauvais à tous les niveaux, malheureusement.
Alors, je pense que tu réponds très bien à ma question, longuement, mais très bien, hein, je t'en remercie. C'est pas sobriété versus innovation, c'est l'innovation au service d'un modèle de société à partir du moment où elle a une raison d'être.
Oui, tu as raison, j'avais zappé cette partie de la question.
Oui, non, mais c'est une très bonne réponse.
En fait la sobriété, elle est nécessaire. Juste pour te répondre en deux mots, on consomme 1,7 fois les ressources que la planète peut nous fournir. Donc, c'est impossible de faire sans sobriété, ça n'arrivera pas. Il faut qu'on redescende à une fois, à minima, ce que la planète régénère chaque année. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer notre paradigme sociétal vers une société de la sobriété, justement. Et là, l'innovation peut nous aider. En revanche, si l'innovation sert une course en avant pour dire vous inquiétez pas, on peut tenir, on a des solutions, c'est pas du tout le bon modèle, quoi.
Est-ce que tu peux me raconter comment vous fonctionnez et me donner quelques exemples, tu vois, que tous ceux qui nous écoutent ressortent aussi de cet échange en ayant une bonne vision concrète de qui vous êtes et ce que vous faites.
En gros, pour bien comprendre, à la base, ça part de constats que nous ont remontés des scientifiques, et notamment Jean Jouzel, qui nous a présenté aussi un peu ses amis. Et en fait, à chaque fois, on nous a dit « les solutions dont on a besoin majoritairement pour faire cette transition, elles existent déjà toutes. Elles sont déjà toutes là. Il ne faut pas attendre la solution miracle qui va tous nous sauver. En fait, tout est déjà là. C'est d'ailleurs très souvent des low-tech, c'est-à-dire des innovations qui sont pas très énergivores, qui sont pas bling-bling, en gros. Mais elles ont un gros problème, c'est qu'elles ne changent pas d'échelle. Elles n'arrivent pas à passer à grande échelle et à transformer nos vies parce qu'elles sont portées par des profils qui sont plutôt des ingénieurs, des chercheurs et des scientifiques. Et donc ces gens-là, en fait, ils n'ont pas la compétence pour trouver un modèle économique, transformer l'innovation en entreprise, faire en sorte qu'elle se déploie et qu'elle change les choses. Et nous, notre constat de base, c'était qu'il y avait des entrepreneurs géniaux qui justement voulaient mettre leurs compétences entrepreneuriales au service de l'urgence climatique sans savoir trop par quel bout s'y prendre. C'est pour ça qu'on a fait Team for the Planet, parce qu'en gros, notre mission, c'est de trouver ces fameuses innovations, de recruter des entrepreneurs pour s'occuper de les déployer et d'investir pour financer tout ça. Et là où c'est assez intéressant, c'est que comme on le fait sous la forme d'un mouvement, parce que nous, tout seuls avec nos petits bras, on ne pouvait pas y arriver, et ben en fait, on a aujourd'hui 120 000 actionnaires qui viennent nous aider non seulement à trouver ces innovations, mais aussi à les sélectionner, on en parlera en deux-deux si tu veux, et puis ensuite à trouver des clients une fois que c'est une vraie entreprise, à réunir de l'argent en faisant une grande tirelire collective qui nous permet donc d'investir et de faire grandir, et puis même à recruter des talents, à obtenir des rendez-vous, etc., etc. Donc le but, c'est de donner une espèce de grande équipe d'Avengers à des innovations qui sont top, mais qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de changer d'échelle. Et souvent d'ailleurs, elles sont absolument cruciales pour la transition écologique, mais c'est démontré, c'est vérifié. Mais le monde économique traditionnel ne les finance pas parce qu'il ne voit pas comment est-ce qu'il va faire des très gros profits ou comment ça va rentrer dans les cases du rendement traditionnel, on va dire, économique. Et donc, on passe à côté de solutions majeures parce que ça ne rentre pas dans les fameuses cases du retour sur investissement.
Tu nous donnes un ou deux exemples parmi les... Combien tu m'as dit ? J'étais resté sur 10, mais c'était 12. Hein.
Ouais. On peut parler de Coolroof, par exemple, qui peint les toits en blanc. Donc, eux, ils ont une peinture à base de coquilles d'huîtres et ça renvoie 92% du rayonnement solaire. Alors, pourquoi c'est bien ? Parce que, en fait, ça fait baisser la température de 7 degrés à l'intérieur des bâtiments et on consomme 40% de clim en moins. Et la clim, aujourd'hui, c'est 10% de la consommation électrique mondiale et ça utilise des gaz fluorés qui sont 3000 fois plus réchauffants que le CO2.
Comment est-ce que tu pallies le niveau de risque qu'il y a à ce stade, le stade auquel vous investissez ? Parce qu'en fait, vous arrivez pas au niveau de l'idée, mais presque.
Quand même, en général, il y a un truc qui existe. Là, mais ouais.
Des ingénieurs ont breveté, tu sens qu'il y a une appétence, qu'il y a un truc. Vous avez pré-testé l'appétence avec des clients. Vous mettez un super boss. Mais enfin bon, t'es quand même très early stage, comme on dit dans le jargon. Et les taux d'échec sont très très élevés à ce niveau-là. Ce choix-là d'aller investir très en amont, t'aurais pu choisir dans des séries B, comme on l'appelle dans le jargon, c'est-à-dire plus tard dans la vie de la start-up. Comment est-ce que vous dosez ça, toi ? J'imagine que l'effet communauté vous aide à mitiger ce niveau de risque.
Bah déjà, on est très sélectif. On a reçu 1700 dossiers aujourd'hui, tu vois, on en a fait 12. Donc, c'est quand même assez violent. On a un comité scientifique, on a 8000 évaluateurs et évaluatrices bénévoles qui sont des gens qui ont justement suivi une formation pour pouvoir nous aider à présélectionner les meilleures innovations avant que ça passe en comité scientifique avec 14 experts. Enfin, vraiment, on a une sélection assez drastique. Et ensuite, on essaye de s'assurer qu'il y a des modèles économiques viables en allant tester directement le marché. Donc, on veut voir s'il y a des vrais clients. Maintenant, là où nous, on n'est pas dans le même positionnement de risque, c'est que, en gros, on se dit, est-ce qu'il y a un client, est-ce que ça peut être viable économiquement ? Mais on se dit pas, est-ce que c'est une licorne qui va faire 300% de rendement dès la première année ? Et donc, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de monde qui investit sur les boîtes où tu sens que c'est très utile, mais pas forcément hyper rentable. Mais là où on démontre un truc intéressant, c'est que nous, on se concentre sur l'impact et toujours l'impact en premier. Mais en se concentrant sur l'impact en premier, en fait, les résultats qu'on obtient, c'est que derrière, le rendement suit aussi. Et c'est assez marrant. Enfin, c'est un truc qu'on est en train de découvrir.
Et puis d'ailleurs, t'en as besoin. Tu vois, t'as pas de start-up qui soit pérenne si t'as pas de la rentabilité.
Tu sauves pas le monde avec des boîtes en faillite. Ouais. Mais il y a une différence entre être over profitable et avoir tout organisé pour être ultra profitable et être rentable pour financer son fameux pourquoi et donc sa mission.
Toi, tu apportes équipe, tu apportes soutien d'une grosse communauté et tu apportes fonds.
Ouais, exactement.
On a vraiment une solution très holistique. Mais en fait,
l'impact est beaucoup sur le soutien de la communauté finalement. C'est vraiment là qu'on voit la différence parce qu'on leur amène de la crédibilité, de la notoriété, des clients et donc de quoi décoller assez rapidement.
C'est qui tes 120 000 actionnaires ?
C'est grosso modo quand même des décideurs économiques et politiques. C'est des gens qui viennent de LinkedIn et en fait, c'est plutôt des classes sociales aisées. C'est plutôt des décideurs, mais on a quand même notre doyenne à 103 ans, tu vois.
Non.
Étudiants chez Team for the Planet. Le principe, c'était que les gens investissent de l'argent, mais sans attendre de retour financier, parce que le but, c'est que leur argent se multiplie, puisqu'il sert à créer des entreprises qui sont rentables, qui vont générer des profits. Mais ces profits qui remontent à Team for the Planet, nous, statutairement, on est obligé de les réinjecter dans de nouvelles innovations. Nous, on voulait quand même rétribuer nos actionnaires pour qu'ils puissent voir à quoi sert leur argent et donc créer un indicateur qui leur permette de voir tous les ans, mon argent a servi à ça et notamment à décarboner X tonnes, en tout cas à générer X tonnes évitées.
Et c'est un indicateur extra-financier.
Exactement, mais ça n'existait pas. En fait, il n'y avait rien. Tout ce qui existe, c'est le crédit carbone que tu achètes pour compenser des émissions, mais tu n'as pas un indicateur qui te permet de dire « je contribue à la transformation du monde et j'ai fléché une partie de mon argent pour faire naître des nouvelles façons de fonctionner dans tel ou tel secteur ».
Vous avez franchi une marche énorme, puisque aujourd'hui, vous avez montré que ça fonctionne avec les 12 sociétés avec les millions qui ont déjà été levés et en même temps c'est une première marche. Toi, tu dois encore faire plus ou moins x10 dans les sociétés à trouver
à peu près.
Pousser. C'est quoi les prochaines étapes pour toi ? Est-ce que ça passe par une internationalisation ? Comment est-ce qu'on y arrive sachant que tes objectifs très ambitieux c'est toujours la ligne bleue des Vosges, mais vous les étiez fixés pour 2030, et c'est à la fois très loin et très proche.
Ouais, bah en fait, comme dans toutes les boîtes, il y a un temps fou pour trouver le passage. Donc tu trouves un passage, puis après il faut repasser un temps fou pour trouver un autre passage, et donc tu testes plein de trucs. Et donc nous, pour arriver à lever des volumes financiers colossaux, aujourd'hui, on n'a pas encore craqué ce truc, on cherche, tu vois, on commence à avoir des très gros investissements, pour le coup, qui arrivent, plusieurs millions d'un coup, ce qui est déjà très bien, mais c'est souvent des visionnaires, des familles. On a la première institution là, qui nous a validé 10 millions, qui sera publique dans quelques temps, mais on ne peut pas encore en parler, qui est, c'est un truc que tout le monde aime bien, donc pour le coup, ça va, c'est assez chouette. Mais arriver à lever 100 millions, c'est le questionnement de cette année pour nous. C'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à craquer ça, parce qu'en fait, on ne peut pas financer l'international tant qu'on n'a pas craqué ça. Une fois qu'on aura craqué ça, si on atteint 100 millions, je pense qu'on pourra passer à l'international parce que le reste du job se fera là-bas. Mais il faut arriver à un volume suffisant pour qu'on puisse financer cet international. Ça coûte très cher. Nous, on doit utiliser maximum 15% de l'argent qu'on lève pour pouvoir faire nos frais de fonctionnement. Alors, on a un plafond à 20% dans les statuts, mais en réalité, on est engagé auprès du conseil de surveillance et des actionnaires à pas dépasser 15, sauf cas extrême. Et donc, avec ça, on peut pas non plus faire 1 million de trucs parce que c'est sur l'argent qu'on lève chaque année, c'est pas sur l'ensemble de l'argent. Et donc, aujourd'hui, on pourrait pas financer l'international. Donc là, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à maintenant rentrer dans des mécaniques plus importantes de fonds, de finances, pour arriver à aller chercher vraiment 100 millions. Et on n'a pas encore les solutions. Comme d'hab, on doit se réinventer, on doit trouver des trucs, mais on a des pistes, on commence à... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on monte les marches, comme tu l'as dit, parce que maintenant, on est crédible, on a une certaine notoriété, nos boîtes fonctionnent, on a du track record, et ça nous aide à aller à la marge d'après.
Ce qui va permettre aussi de convaincre, c'est les dividendes climat que vous pouvez afficher. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou deux, tu vois ? Est-ce que vous voyez déjà, parce que malgré tout, tout est récent, mais est-ce que vous voyez déjà les bénéfices pour la planète des sociétés dans lesquelles vous avez investi ?
Ouais, alors pour l'instant, on a eu les dividendes climat de 2022 qui sont tombés. Donc là, vraiment, les boîtes étaient extrêmement récentes, moins d'un an. Il n'y en avait que deux qui étaient vraiment commercialisées. Et on parle de quelques milliers de tonnes, je crois que c'est 4000 tonnes, un truc comme ça, évitées. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une exponentielle. Déjà sur 2023, on attend d'avoir la suite, mais on est, je pense que c'est pas loin d'être 10 fois ça. Et donc, pareil, on a que très peu de boîtes qui étaient encore vraiment en route commercialement. Là, on commence à avoir des boîtes qui sont vraiment en route commercialement, plusieurs. Donc, je pense qu'à partir de cette année, de l'année prochaine, ça va commencer à être des gros volumes en termes d'impact. Nous, le but, c'est vraiment des millions de tonnes évitées par an, quoi.
J'aimerais bien finir cette émission en reparlant un peu de toi. On a commencé sur ton envie d'alignement et sur tu vois, la vision très claire que tu avais enfant de ce qui te rendait heureux et du bonheur qui était associé à la nature. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé cet alignement dans Time for the Planet ?
Pas encore, pas tout à fait. Je ne le trouverai pas tout à fait dans Time for the Planet. En fait, Time for the Planet, le problème qu'on a avec ça, c'est que moi, ma raison d'être, c'est la nature. J'ai envie d'y passer le plus de temps possible pour la préserver, l'admirer et en profiter. Et je passe 10 heures par jour sur un écran. Donc ça, c'est une première dissonance. Et la deuxième, c'est que je suis convaincu qu'il faut qu'on ralentisse, qu'on apprenne à ralentir dans nos modes de vie. Et en fait, je cours en mode entrepreneur, quoi. Donc j'ai ces deux dissonances-là. Et en même temps, tu vois, je me dis, j'ai l'impression que maintenant, j'ai aussi une responsabilité et qu'il faut que je ne peux pas l'ignorer de faire partie de ce vaste mouvement pour transformer les choses. Et j'ai pas envie non plus de fuir ou de me dire je suis égoïstement dans ma nature, mais je contribue pas à la préserver parce que demain le vrai monde il va nous rattraper et il va finir par la bousiller cette nature. Donc si tu veux, je peux pas me cacher non plus, donc j'essaie de trouver le bon équilibre. Mais demain, dans le futur, je pense quand même que j'irai de plus en plus dans la nature et j'y resterai et j'y viendrai de moins en moins en ville. Et je ferai de plus en plus d'activités dehors le plus souvent possible. Mais ça sera la suite, tu vois. J'aurai contribué avec mon énergie aujourd'hui, avec mon temps et puis je contribuerai d'une autre façon demain encore.
En général, je pose toujours la question à mes invités d'un livre qu'ils recommandent. Je vais te poser cette question-là, même si tu en as recommandé quelques-uns, mais je voudrais surtout que ce soit l'occasion pour toi de parler du livre à venir, publication attendue pour l'été prochain, l'été 2024.
Un peu avant, ouais, tout à fait.
2024, juin, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, je pense, normalement, c'est mai, juin, je ne sais pas exactement encore. Ouais, merci de me donner cette occasion, de cette posture de grande humilité, de parler de mon propre livre, mais en gros, ça s'appelle « Et si le futur faisait envie ?» Et grosso modo, le fond du livre, c'est « Ne cherchez pas à être écolo, cherchez à être heureux ». C'est un vrai travail sur la déconstruction, justement, de toutes ces mécaniques très commerciales liées à notre vision du succès, nos visions de la réussite de vie, hein, de manière très large, pour nous aider à nous libérer du poids de tout ça et à retrouver ce qui fait vraiment du bien dans une vie, ce qui permet vraiment de toucher à ce fameux mot, le bonheur, mais pour de vrai. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on est vraiment en train de toucher, selon moi, à ce qui fait profondément le vrai bonheur, celui qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas commercial ou vers lequel on n'a pas été endoctriné depuis la naissance, et bien en fait, on a automatiquement beaucoup moins d'empreintes sur le monde et on est beaucoup plus respectueux du vivant. Et donc j'aimerais emmener les gens à travers ce livre, j'espère que l'exercice sera réussi, à se questionner sur ce qui leur fait profondément du bien. Évidemment, la nature a une place centrale dans mon propos, mais c'est souvent des choses extrêmement simples et ça allège aussi de se libérer du poids de ces exigences de société autour de l'accumulation, autour de la carrière, tu vois, toutes ces choses-là.
À qui est-ce que tu aimerais passer ce micro ? Quelle personne inspirante et engagée pourrait prendre ta suite ?
Je vais quand même dire Victoria Guillaumont, de Nouvel Oeil, tu vois qui c'est ?
Ouais, je la suis sur Insta.
Bah, j'aime moi, beaucoup ses écrits. C'est quelqu'un de vraiment différent de la plupart des gens aujourd'hui.
Arthur, je te remercie beaucoup.
Bah, merci à toi.
Je te souhaite beaucoup de bonheur.
Bah, également, c'est vrai que c'est le meilleur des souhaits. À plus.
Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain N'attend Pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.